France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de la nouvelle saison d'Enquête de politique, tous les samedis après le journal de 18h et tous les dimanches à 23h et en podcast bien sûr quand vous voulez. Nous allons encore enrichir notre collection de ismes cette année, tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Le populisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le populisme? Premier épisode.
On pense parfois que les parasites, ce sont les mendiants dans les rues ou les prostituées sur les trottoirs. Eh bien non, ce qu'il faut vraiment dégager, ce sont nos parlementaires.
Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien.
Je suis un Gaulois et comme les Gaulois, je ne crains rien d'autre que le ciel ne me tombe sur la tête.
Le peuple a-t-il toujours raison? Si c'est pas lui, qui a toujours raison? Le vrai mot fourre-tout, c'est élite. Qui est une élite?
On n'a pas besoin d'un grand représentant qui parle à un peuple muet. Non, le peuple n'est pas muet et il n'a pas besoin de tribun.
Le populisme nous menace, le populisme est la plaie de la démocratie, les populistes sont aux portes du pouvoir, le populisme c'est la démagogie, le culte du chef, la simplification généralisée, l'extrémisme. Le populisme en réalité, dans le débat public, c'est surtout un anathème, une insulte, un argument, un vocable qui recouvre trop de notions bien partagées dans tous les camps. Ce terme, comme le dit Pierre Rosanvallon, est « caoutchouc ». Les historiens et les politologues s'en méfient, peinent à le définir ou s'y refusent. Mais le problème, c'est qu'il est utilisé et surutilisé. Et quand un terme semble impropre, quand un qualificatif politique censé définir une tendance n'est revendiqué par personne ou presque, alors il faut se plonger dans l'histoire de ce mot, revoir l'ensemble des circonstances dans lesquelles il a été utilisé à travers les temps et sur l'ensemble des continents. Nous allons donc tenter de faire le tour de la question et il nous faudra bien pour cela 4 épisodes d'enquête de politique, d'enquête de populisme. Au départ, la science politique utilisait le terme populiste pour 2 expériences au 19e siècle, aux États-Unis avec le People's Party et en Russie avec les Narodniki, 2 populismes qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, si ce n'est peut-être une forme d'agrarisme, mais surtout qui n'ont rien à voir avec l'acception, même très vaste, du populisme tel qu'on l'entend aujourd'hui chez nous. Si à l'issue de cette série d'émissions, je ne pense pas que nous ayons résolu la question de la définition du mot, au moins nous aurons parlé de la crise démocratique, de la crise de la représentation qui sévit dans nos sociétés. Pour cette première émission, nous allons nous pencher sur les expériences qualifiées souvent après coup de populistes et entendre les définitions des historiens, des politologues qui sont passés par nos studios ou que nous sommes allés voir. Et puisqu'il s'agit de définir un mot, eh bien, on va commencer par un historien qui est aussi académicien, Pascal Horry, auteur de, entre autres, « Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste » chez Gallimard, et de « Ce côté obscur du peuple » chez Bouquin. Alors Pascal Horry, on va essayer de définir le populisme. Ça commence de façon compliquée dans votre livre, parce que vous dites que quiconque prétend analyser le populisme est confronté à une objection préjudicielle, celle qui met en avant l'incertitude de l'idéologie en cause. Le populisme serait une notion floue. Avant de tomber dans le piège de la définition, attention, on y va tout droit, avant de tomber dans le piège de la définition, dites-vous, il importe donc de questionner la question et d'abord de définir le flou. Alors, définissons d'abord, Pascal Horry, le flou du populisme.
Le flou du populisme, il est typique de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe dans lequel nous sommes, parce que désormais la formule devient une formule magique qu'on peut appliquer à quantité de situations qui ne ressortissent peut-être pas toujours à la définition que je propose. Quand je dis « je », c'est par prétention, c'est pour m'exposer justement à la critique.
Il faut bien proposer une définition.
Je pense qu'on peut définir populisme à condition de choisir les expériences dont on parle. La France peut se flatter d'avoir inventé le populisme au sens moderne, comme aussi la démocratie autoritaire au sens moderne. avec le général Boulanger, qui est un général qui a une image de gauche, pour simplifier, un général républicain, il n'y en a pas tellement au début de la Troisième République, se cristallise une coalition très intéressante à analyser, puisque c'est une convergence des extrêmes. Je le traduirais même de façon plus théorique, une convergence des radicalités. Une radicalité de droite, une radicalité de gauche, qui vont faire un bout de chemin avec un apprenti dictateur. Et ça, c'est très intéressant.
Alors, justement, nous allons entendre un extrait pour illustrer votre propos et puis pour que vous puissiez nous définir le populisme juste après, de La nuit du général Boulanger, un téléfilm passé sur la télévision française, donc en 1982.
Un mot de vous ravirait nos amis socialistes. Restez dans le vague. Dans le salon, il y a des gaullistes et des blanquistes.
Je croyais fâché.
Le voilà le miracle du boulangisme.
Amis, vous connaissez mon cœur. Depuis le premier jour, il bat pour l'espérance ouvrière. Nous sommes en 1889. Il y a 100 ans, à la Bastille, nos pères ouvraient le chemin. Pour cet anniversaire historique, le général Boulanger vous montrera bientôt quelle nouvelle Bastille il faudra renverser.
Vous allez un peu fort.
Voyez-vous, les gens sont des tambours, je tape dessus, c'est tout.
Bon, maintenant que vous avez vu les socialistes, il faudrait saluer les bonapartistes.
Je crois, messieurs, que nous sommes en train de passer du 17 au 18 Brumaire. Dans cette veillée d'armes, mes pensées rejoignent les vôtres. Ensemble, nous nous tournons du côté des Invalides. Nous saluons la glorieuse mémoire de celui sans lequel rien ne serait.
À mon tour de t'emmener.
Où ça ?
Chez la Duchesse.
Vous voyez, donc, Pascal Horry, le boulangisme, est-ce que c'est autre chose que de la démagogie, c'est-à-dire dire à chacun ce qu'il veut entendre ?
En tant qu'historien, je ne peux pas utiliser le concept de démagogie, qui est un jugement de valeur absolument inutile, parce qu'on va se le jeter au visage dans une polémique politicienne. Non.
Ah, c'est vrai que si on commence à aborder la question du populisme par le côté anathème, on n'en finit pas. Alors allez-y, définissez-nous le populisme à partir de ça.
Ce qui est très intéressant dans le boulangisme, c'est que deux radicalités se rejoignent. D'abord celle des monarchistes populaires. Vous avez à la fin du XIXe siècle un mouvement monarchiste qui s'épuise et qui a une idée de génie de rejoindre le suffrage universel en considérant qu'après tout, ce sont les élites dégénérées, voltairiennes, maçonniques, juives, etc., qui pourrissent la France, mais que le peuple, lui, est saint. Donc vive le suffrage universel pour restaurer la monarchie. C'est pas du tout paradoxal, ça se tient. Bon. Et puis vous avez, de l'autre côté, une partie de l'extrême-gauche, et en particulier, ce qui se dit très rarement, c'est que dans l'état-major du général Boulanger, et ce sont souvent des personnalités importantes, il y a d'anciens communards. Et pourquoi donc ? Parce qu'une bonne partie de la culture politique des communards repousse fondamentalement le système parlementaire, qui apparaît comme mystificateur, produisant de la corruption, mais étant corrompu dans son principe. Et ceux qu'on appelle les blanquistes, héritiers donc d'Auguste Blanqui, dont une bonne moitié choisissent le général Boulanger, c'est le chaînon manquant entre les jacobins et les bolcheviques. C'est du socialisme autoritaire. Clairement, ils ne veulent plus de ce système parlementaire libéral, mais ils viennent de la gauche. Et ça, c'est prodigieux, parce que cette aile gauche du boulangisme est très active auprès du général. Et qu'est-ce qu'elle va devenir après l'échec du général ? Elle va réinvestir dans l'antisémitisme.
Pourquoi, Pascal Horry, ne faites-vous pas remonter le populisme au bonapartisme ?
Il est évident que le boulangisme n'apparaît pas ex abrupto. Il y a eu des précédents. Là, il s'agit avec Napoléon Bonaparte, dont Madame de Staël a dit génialement que c'était Robespierre à cheval, c'est-à-dire 50% héritier de la radicalité révolutionnaire, y compris dans la modernisation de la société un peu à marche forcée, et moitié cheval, parce que, évidemment, il restaure la monarchie. Et ça, c'est génial, parce qu'il est empereur des Français, il se ressource régulièrement sous forme de plébiscite, traduisez de référendum, et le sommet du génie, c'est son neveu. Le futur Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, est le premier président de la République en France élu au suffrage universel, triomphalement. C'est incroyable de penser que la France vient juste d'instaurer, début 1848, le suffrage universel, et elle l'applique à l'élection du président de la République dès la fin de l'année. Il est donc élu triomphalement, et que fait-il au bout de 3 ans ? Un coup d'État. Et vous comprenez tout de la démocratie autoritaire et derrière du populisme, dans le texte du coup d'État. C'est deux phrases. Article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. Ça, c'est le coup d'État. Jamais Victor Hugo, les Républicains, ne lui pardonneront d'avoir été parjure. Article 2 du coup d'État. Le suffrage universel est rétabli. Pourquoi rétabli ? Parce que depuis 3 ans qu'il est président de la République, il s'est plutôt allié à la droite, qui supporte mal le suffrage universel, et qui a passé son temps depuis 3 ans à détricoter le suffrage universel, ce qui fait qu'au moment du coup d'État, un tiers des électeurs ont été rayés des listes électorales. Donc, le futur dictateur, le futur tyran au sens grec, le futur Napoléon III, évidemment, justifie l'accaparement du pouvoir par cette sorte de don suprême qui est que plus je suis le maître, plus je restitue le suffrage au peuple. Et ça, c'est le génie du populisme, y compris au XXIe siècle.
Messieurs, la France a répondu à l'appel loyal que je lui avais fait. Elle a compris que je n'étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit. Plus de 7 millions de suffrages viennent de m'absoudre.
Louis-Napoléon Bonaparte fait accepter son coup d'État avec cet acte qu'on pourrait juger de progressiste, c'est-à-dire rétablir, comme vous l'avez dit, Pascal Horry, le suffrage universel, et on aboutit à une sorte d'aberration quand même. Je ne suis sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit. C'est une drôle de phrase, non ?
Mais c'est une phrase qui résume bien la démarche du leader de la démocratie autoritaire depuis les Grecs de l'Antiquité et en arrivant à un certain nombre de... Alors, faut-il les appeler dictateurs ? C'est un terme un peu réducteur. De fortes personnalités qui n'arrêtent pas de se ressourcer dans ce peuple dont elles définissent les contours, évidemment, toujours pour se trouver confortée dans le renforcement du pouvoir d'un seul homme. Il y a une sorte de dialectique. Plus je suis un seul homme, plus je m'adresse au peuple, évidemment. Donc, c'est absolument génial.
Pascal Horry, que l'on retrouvera dans d'autres épisodes de cette série, cette semaine, comme les 3 prochaines semaines, nous tentons de comprendre ce qu'est le populisme. Et les 4 épisodes de cette série sont déjà podcastables, par exemple via la page de l'émission sur le site de France Inter. Vous pouvez aussi nous laisser un message, nous soumettre des ismes pour cette année. On continue notre voyage historique à travers les moments dits populistes, le poujadisme entre 1953 et 1958. Pierre Poujade, ce papetier de Saint-Céré dans le Lot, illustre le populisme sous la 4e République. Il ne s'agit pas là d'un homme providentiel, mais d'un homme qui se dit du peuple, le français moyen, dressé contre l'État vorace et injuste. Perrine Simon-Naoun, historienne et philosophe, autrice de « Les déraisons modernes » et de « Sagesse du politique, le devenir des démocraties ». Ces 2 livres sont édités chez l'Observatoire. Perrine Simon-Naoun, je voudrais vous faire écouter la voix de Pierre Poujade, qui prétend évidemment, comme tout bon populiste, représenter le peuple. C'est un extrait d'un discours de Pierre Poujade de 1955.
C'est donc en français moyen que je te parle. Un homme parmi ces millions qui travaillent chaque jour et qui, au soir d'une rude journée, mettent la main sur l'épaule de leur femme pour regarder des enfants qui grandissent en s'interrogeant anxieusement sur leur avenir. Hélas, lorsque l'État, livré aux factions et aux puissances d'argent, ne remplit pas son rôle d'arbitre impartial, que devient donc la liberté pour les petits que nous sommes? Peut-on parler d'égalité à des Français qui voient chaque jour des aventuriers sans patrie s'engraisser du fruit de leurs efforts? Ce que je sais, ce que je sens, c'est que le peuple s'éveille et qu'il prend conscience du péril. Je ne suis pas ici pour te parler politique, mais comme toi, je crois que tous les partis sont coupables puisqu'ils ont menti ou qu'ils ne nous ont pas efficacement défendus.
Voilà, le poujadisme au cours des années 50, un mouvement contre les élites typiquement populistes. Alors Perrine Simon-Naoun, je ne sais pas si vous avez remarqué, Pierre Poujade s'adresse au peuple en le tutoyant, comme si c'était une personne. Il nie la spécificité multiple du peuple.
Oui, je dirais qu'il incarne parfaitement ce trait du leader populiste. Un charisme, mais un charisme très particulier. Le leader populiste est en fait celui qui se montre capable d'interpréter la volonté du peuple. Là, je crois qu'il ne faut pas se tromper, et j'espère que nos concitoyens en seront fortement avertis avant les élections présidentielles de 2027, c'est qu'en réalité, le leader populiste n'arrive pas du tout au pouvoir pour réaliser la volonté du peuple. Le leader populiste est celui qui, comme Perron, par exemple, ayant le contact direct avec le peuple, est capable, en fait, d'en comprendre la volonté. Mais après, il mène son action politique sans en référer au peuple. Et en fait, les leaders populistes fonctionnent avec une idée d'un peuple qui est un peuple relativement passif, et en tout cas moins actif que dans les régimes de démocratie représentative. Ce qui peut sembler un paradoxe, mais si vous regardez les discours de ces différents leaders, vous vous rendez compte que tel est le type de charisme, en fait, auquel ils font appel.
Oui, parce que c'est quelque chose d'assez contradictoire. Je voudrais vous interroger sur cette contradiction. Le peuple est le leader dans le système populiste. Finalement, c'est une délégation totale. Donc le peuple a l'impression d'avoir plus sa voix au chapitre, alors qu'il délègue complètement. Mais comme le lien est direct et comme le leader populiste s'identifie au peuple, il vient du peuple, voilà, Jaurès n'est pas un leader populiste, Jaurès est un normalien et on ne peut pas dire qu'il ne comprenait pas et qu'il n'agissait pas pour le peuple. Ici, Poujade, lui, dit « je viens du peuple, je suis comme vous ». Comment vous expliquez cette contradiction entre la vox populi et finalement la délégation totale ?
C'est le grand paradoxe du populisme. Et finalement, un certain nombre d'opinions publiques ont porté au pouvoir des leaders populistes, ont payé cher ce paradoxe, c'est-à-dire en se rendant compte qu'une fois au pouvoir, celles-ci faisaient fi de leur avis et de leur intervention. Le principe du populisme, ce serait ce lien direct avec le peuple, entre un leader et un peuple.
Et si c'est forcément une mystification pour vous.
Bien sûr.
Le populisme, objet caoutchouc, avec Olivier Dard, maintenant historien à la Sorbonne, spécialiste des droites. Nous l'avions déjà interrogé pour notre série sur les réacs et l'agrarisme. Et nous le retrouvons aujourd'hui parce qu'il est l'auteur, avec Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois, du Dictionnaire des populismes aux éditions du CERF. Ne nous résignons pas, tentons encore de définir le populisme. Et on arrive inévitablement à Jean-Marie Le Pen avec donc Olivier Dard.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Olivier Dard, tous nos invités, tous les historiens que nous recevons commencent toujours par nous parler du flou, du caractère caoutchouteux ou élastique du populisme. Et vous-même, vous ouvrez le dictionnaire sur le populisme en disant que Peter Wiles, un politologue anglais, pour définir le populisme, avait établi 24 critères. Autant dire que c'est impossible.
Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons intitulé ce dictionnaire, non pas le dictionnaire du populisme, mais justement le dictionnaire des populismes. Alors, cela étant, cette élasticité ne saurait nous conduire, évidemment, à considérer qu'aucune définition ne serait possible.
Vous ne pouvez pas vous dérober, parce que voilà. Le populisme, ce mot-là, il est utilisé tout le temps. Olivier Dard, on va continuer à égrener les personnages dont on a qualifié l'action de populiste. Bien sûr, Jean-Marie Le Pen, on a commencé à en parler. Jean-Marie Le Pen qui était un député poujadiste, mais qui apparaît sous une autre forme et qui représente une autre espèce de populiste quand il arrive en 1972 et surtout quand il émerge dans les années 80.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison de rappeler l'ancrage poujadiste de Jean-Marie Le Pen. Dans l'histoire du populisme, il nous permet de faire le lien avec une autre forme d'organisation qui a quelque chose à voir avec l'héritage populiste, ou plus exactement l'héritage boulangiste, c'est-à-dire la forme ligueuse. Évidemment, Jean-Marie Le Pen, né à la fin des années 20 et démarrant sa carrière politique dans les années 50, ne peut pas créer des ligues comparables à ce qu'avait été...
Oui, on est après la guerre, donc c'est pas possible.
La jeunesse n'est pas patriote avec ça, mais Jean-Marie Le Pen, à sa façon, héritier des jeunesses patriotes, alors avec un discours beaucoup plus national que celui de Poujade, qui était très catégoriel, mais on retrouve chez Jean-Marie Le Pen un certain nombre de critères liés au populisme, c'est-à-dire la défense d'un peuple, mais alors là, qui le définit comme un peuple enraciné, il y a dans cette définition
un
du
caractère
peuple,
identitaire. Ouais.
Voilà, une dimension, si vous voulez, qu'est-ce qu'on appelle le peuple, est-ce que c'est le démos, est-ce que c'est
l'ethnos. Justement, chaque populiste définit un peuple, entend, prétend représenter un certain peuple. Alors, ça commence par définir le peuple, et le populisme marche quand le peuple se reconnaît dans la définition du leader. Comment ça marche ?
Alors, vous avez raison.
Parce que le peuple de Poujade n'est pas forcément le peuple des électeurs d'aujourd'hui, de Marine Le Pen ou de Jean-Marie Le Pen. Et ce n'est pas le peuple, vous l'avez dit, plus citadin et parisien de Boulanger.
Et ce n'est pas non plus le peuple de fils du peuple de Maurice Thorez.
Non.
Qui lui aussi,
ah bah
voilà.
Non,
voilà, parce que
dans la classe ouvrière.
Voilà, voilà. Bon, alors, avant même d'arriver à la question du peuple, il y a à avoir à l'esprit que le populisme prospère, de toute façon, de l'instant où la démocratie représentative ne fonctionne pas.
Alors on va écouter un extrait d'une conférence de presse de Jean-Marie Le Pen, c'était à la fin des années 90.
Je suis un Gaulois, et comme les Gaulois, je ne crains rien d'autre que le ciel ne me tombe sur la tête. La France est un décor démocratique derrière lequel se cache des méthodes sourdes de dictature, ce qu'on peut appeler, selon un néologisme, la démocrature.
Alors, donc, c'était en 1990. Olivier Dard, ce son, cet extrait est intéressant à deux points de vue, et je voudrais vous entendre là-dessus. Pierre-André Taguieff considère qu'il y a deux sortes de populistes, les populistes protestataires et les populistes identitaire. Identitaire au sens où le populiste, le leader populiste prétend être le miroir du peuple, être le peuple, l'homme-peuple. Et Jean-Marie Le Pen, ici, dit, moi je suis gaulois, je suis comme ça, c'est dans mon caractère. Et donc, il est le populiste identitaire. Et puis, il est le protestataire, puisqu'il désingue la démocratie, qui lui permet de parler là. Pourtant, il la désingue en disant que voilà, c'est une démocrature. D'ailleurs, il utilise un terme qu'on utilisera aussi pour désigner des populistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction de Taguieff, populiste identitaire, protestataire ?
Chez un Jean-Marie Le Pen, les deux sont liés. Avec d'ailleurs cette particularité chez lui, c'est que Jean-Marie Le Pen a toujours été soucieux de se présenter aux élections, d'être un élu. Et de ce point de vue, il arrive effectivement à mêler cette dimension protestataire, cette dimension effectivement d'identitaire où il reprend toute l'idée d'une France éternelle. Mais de ce point de vue, et ça renvoie au tout début de notre entretien, est-ce que finalement il y a forcément à prendre en compte le populisme ici ou dans son cas, finalement, tout un héritage qui est celui de l'héritage d'une droite nationaliste qui est, j'allais dire, l'identité même, si vous me permettez l'expression, de Jean-Marie Le Pen, et qui court dans tout son itinéraire depuis les années poujadistes jusqu'à aujourd'hui. Alors, simplement Jean-Marie Le Pen, qui ne parlait pas de populisme dans les années 60, 70, et même un petit peu après, va reprendre le thème à son compte, et d'ailleurs mettre régulièrement sur des affiches le lien
ni de gauche ni de droite, ni du peuple.
Le peuple, voilà, Le Pen, l'incarnation.
Dans cette élection présidentielle, je m'exprime comme porte-drapeau et candidat du peuple français.
Il y avait dans ce Front National de Jean-Marie Le Pen toute une construction autour de la figure du chef, avec un certain nombre de surnoms bien connus, le menhir et autres. Le rapport de Jean-Marie Le Pen au chef, c'est pas du tout la configuration de 1970, ou d'ailleurs c'est bien son problème, il est un porte-parole d'un nouveau mouvement qui s'appelle le Front National, et ça lui suffit pas du tout, et il va profiter de la conjoncture pour construire un parti à son image.
Cette semaine, premier épisode de la série des 4 émissions sur le populisme avec Pascal Horry, Perrine Simon-Naoum, Olivier Dard. On a déjà passé en revue une galerie de personnages de l'histoire politique que l'on peut qualifier de populistes. Et vous verrez par la suite que tout le monde n'est pas d'accord. Mais n'allons pas trop vite, c'est déjà assez compliqué comme ça. D'autant que personne, ou presque, ne se réclame du populisme. Alors j'ai été voir Jean-Pierre Rioux, historien, spécialiste de la France contemporaine, chez lui à Versailles. Il est l'auteur de « Les populismes » chez Perrin, et plus récemment de Nos villages au cœur de l'histoire des Français chez Talendier. Comment définir un mouvement sans théoricien ni adepte revendiqué ? Jean-Pierre Rioux.
Vous ne trouvez personne qui vous dit « je suis populiste ». Il y a des gens qui font des appels au peuple, mais qu'on puisse aller à l'isme, populisme, en tant que, je dirais, légitimité politique, comme socialisme, communisme, fascisme, tout ce qu'on veut. Non, le populisme est un mot de commentaire, de commentateur, parfaitement élastique, mais au tréfonds, il y a quelque chose que l'on pourra appeler populisme ou attitude populiste et qui part, je dirais, d'un ressentiment. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est le mot du camionneur de Rungis en 2005, au moment où on avait dit non par référendum, etc., etc. Son mot exact, en disant qu'on en a marre, ça ira peut-être mieux. C'est ça, le réflexe, l'attitude populiste à l'état chimiquement pur. Voilà. On va dire que ça va mal, qu'on en a marre. L'idée de fond, c'est que c'est le peuple à l'inconditionnel. Le peuple est un mot, oui, qu'on ne discute pas. C'est un mot qui permet de tout maîtriser.
Qui est le peuple ?
Le peuple, c'est l'unité, je dirais, organique. C'est celui qui exprime le mieux, au fond, la démocratie dans son état brut. Et la démocratie, vous le savez comme moi, c'est à trois rayons. C'est la souveraineté populaire, c'est le peuple souverain. C'est l'état de droit, en ce sens que cette souveraineté s'exerce dans un cadre étatique où on élabore des lois, on les applique, on les respecte, etc. Et enfin, la démocratie, c'est le droit de l'individu. Les populistes, le populisme, disent que nous sommes les démocrates parce que nous représentons constamment le peuple dans son unité innée, générique, face à l'autre, qui lui est par définition dissolvant, qui attaque cette unité organique du peuple.
Et qui est l'autre ?
Alors voilà, prenons la France. L'autre, ça a été tout ce qui dissout, au temps de l'affaire Dreyfus, ce qu'on a appelé à l'époque les intellectuels. Il y a une pensée critique, des élaborations néfastes de la pensée, de l'idée, qui font que on va détruire l'armée, l'État, la nation, etc. L'intellectuel fait partie de l'autre dissolvant. Bon, alors ensuite, l'autre dissolvant, dans les années 30 aussi, ça peut être le juif. Et donc vous pouvez avoir, dans cette mouvance qu'on peut appeler de l'extérieur populiste, un premier, je dirais, foyer de dissolution de, je dirais, de l'unité et de la vocation première du peuple, le juif destructeur.
À la technique aujourd'hui, Alexandre Chenet, Christophe Imbert, bien sûr, est à la réalisation. Et Franck Olivard déniche toutes les archives sonores. Thierry Dupin est à la programmation musicale. Et pour toute la série sur le populisme, Lila Dessin, notre stagiaire, nous a bien aidé. Alors, le populisme et le fascisme, quelle différence, quelle similitude ? C'est ce que j'ai demandé à Marianne Matar-Bonucci, professeure d'histoire politique à Paris 8, spécialiste de l'Italie, l'Italie terre de fascisme et de populisme. Marianne Matar-Bonucci a entre autres écrit « Totalitarisme et fasciste » aux éditions du CNRS.
Le populisme est une composante du fascisme, présent dans la rhétorique, présent dans les discours et présent dans l'idéologie. Mais le projet fasciste, qui est un projet fondé sur des valeurs hyper nationalistes, est bien plus consistant qu'un simple discours populiste. En sciences sociales, on se demande si le populisme est une idéologie. Certains diront que c'est une idéologie peu substantielle. Moi, je ne pense même pas que c'est une idéologie.
C'est une méthode,
mais
le populisme.
C'est une méthode, une rhétorique, un discours. Et donc, c'est présent dans le fascisme, qui, en revanche, est une idéologie effectivement infiniment plus consistante, fondée sur le nationalisme, avec la volonté de mettre en place une forme de révolution culturelle pour créer un homme nouveau à l'image des valeurs de cet hyper-nationalisme.
Et puis c'est la négation de la démocratie, c'est même un projet antidémocratique, alors que le populisme n'est pas antidémocratique, c'est une forme de démocratie peut-être caricaturée et non libérale, mais...
Absolument, ça c'est en effet
un
point tout à fait important, oui, c'est que le populisme prétend avoir donc ce rapport essentiel au peuple, mais un peuple qui n'est pas le démos, c'est-à-dire un peuple constitué encore citoyen, mais un peuple constitué comme une entité fantasmée, qu'on invoque pour l'opposer, alors tantôt aux élites, tantôt aux gros, le peuple et les gros, cela a été étudié par Pierre Birnbaum, tantôt même à d'autres parties du peuple, il y a le vrai peuple et le peuple dévoyé, les gouvernements populistes, car il peut y avoir des mouvements et des régimes populistes, prétendent agir au nom du peuple, effectivement.
On retrouvera Marianne Matarbonucci plus longuement la semaine prochaine pour parler de l'Italie, le showroom du populisme.
France Inter. Enquête de politique. Thomas Legrand.
Alors quand on parle du populisme, on parle du rapport élite-peuple. Et l'élite, c'est le sujet de nombreux livres de Pierre Birnbaum, sociologue et historien. Marianne Matarbonucci y faisait référence à l'instant. La dernière publication de Pierre Birnbaum, c'est « La tentation nationaliste, conversation pour demain avec Régis Meyrand » chez Textuel.
Je pense que le populisme est une forme de renvoi à une forme de mobilisation d'un ensemble social composé d'individus relativement atomisés les uns des autres, qui se mobilisent à partir de valeurs, d'idéologies, de croyances, de fantasmes, de visions complotistes, contre un ennemi supposé externe au peuple lui-même, font massifier, sans conscience de classe, dépourvu de toute structuration sociale, est supposé se lever à partir d'émotions, à partir de fantasmes, contre un ennemi qui lui serait externe et qui lui serait hostile.
Et en fait, vous nous décrivez une mécanique, et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas... C'est-à-dire une mécanique qui opposerait un peuple qu'on a du mal à définir face à un ennemi qu'on a aussi du mal à définir. Et c'est peut-être dans la définition de l'ennemi, de l'autre, puisqu'on parle du « eux » et du « nous » souvent, quand on veut définir le populisme, c'est dans la définition et du « eux » et du « nous » qu'on peut distinguer populisme de gauche ou populisme de droite.
Je ne vous suivrai pas non plus là-dessus, parce que malheureusement, souvent, les « eux » et les castes et le petit groupe supposé dominer cette masse populaire de petits, ce sont souvent les mêmes, c'est-à-dire l'aristocratie dans le temps, la caste de nos jours, les 200 familles depuis 1934. Je pense que malheureusement, il faut non pas mettre un équivalent entre les deux. Il peut y avoir des
formes... On parle d'élite ou d'oligarchie.
D'élite, d'oligarchie, ce vocabulaire, on le trouve au cœur même du Parti communiste français depuis les années 20 et jusque dans les années 80, moins de nos jours. Et on pourrait trouver des textes, mais inimaginables.
Si, l'oligarchie, on le trouve maintenant dans le vocabulaire de...
D'extrême droite aussi.
D'extrême droite et de Jean-Luc Mélenchon. Il parle d'oligarchie.
Alors, on peut venir à Jean-Luc Mélenchon, malheureusement, mais il se revendique lui-même du populisme, il l'a dit lui-même, j'en suis fier, je fais mien ce terme, j'adhère à ce terme, il le revendique lui-même, je suis un populiste.
Le peuple a-t-il toujours raison? Alors, je vais presque relancer la question, si c'est pas lui, qui a toujours raison?
Jean-Luc Mélenchon sur France Culture en 2010.
La question pour moi n'est pas de savoir si le peuple ou qui que ce soit a toujours raison. C'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est qui exerce le pouvoir. C'est tout. Pour moi, la réponse, c'est le peuple. Alors, je comprends bien qu'aussitôt, ce qu'on appelle les élites, mot fourre-tout, parce que le vrai mot fourre-tout, c'est pas le peuple. Le vrai mot fourre-tout, c'est élite. Qui est une élite?
Il utilise un vocabulaire qui va dans ce sens, c'est-à-dire, il oppose le peuple, dont il est le représentant, aux gros, aux bouffis, aux gorgés, à tous ceux qui s'en mettent plein les pognes, à ceux qui sont pleins de fric. C'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire de dénonciation des dirigeants. Ce ne sont pas des hauts fonctionnaires qui assument leur emploi. Ça n'est pas un État plus ou moins méritocratique et légitime qui dirige la société française.
Cette année, disons le scandale, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le pays ?
François Ruffin pour Blast, juin 2023.
En haut, ils se gavent. Ils se gavent comme jamais ils se sont gavés. Et en bas, on rationne les gens sur tout. Tout est rationné en bas pendant qu'ils se gavent en haut.
Ce sont directement des valets du capital, de l'oligarchie, de la caste. Il a cette formule, il faut les balayer. C'est exactement la mythologie de la Révolution française qui était déjà à l'œuvre du temps de Sieyès, c'est-à-dire on a un tiers-État et tous les autres n'en font pas partie, c'est-à-dire la noblesse, l'aristocratie, la bourgeoisie.
Alors, revenons-y. Pierre Bérébone, la Révolution française est populiste ?
Elle n'est pas populiste en elle-même, mais la manière dont certains envisagent l'opposition entre la noblesse impure, perverse, et la bourgeoisie qui lui est liée, impure, perverse, liée à l'argent, exploitant le bon peuple. Et le peuple a une dimension populiste. Et ce qui est frappant, c'est qu'on est tout à fait en dehors d'un rapport de classe. C'est-à-dire, comment peut-on imaginer que les marxistes, que la longue tradition marxiste, utilise un vocabulaire populiste ? On la trouve tout au long de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, tous les congrès des partis communistes reprennent ce terme, opposant le peuple à une toute petite minorité infime d'oligarchie. Il y a par exemple une extraordinaire de l'humanité, où l'on voit 10 pantalons noirs descendre et dominer avec des chapeaux de haute forme, dominer un peuple massif, où tout le monde se promène tranquillement avec son toutou, ses amoureux, dans la paix absolue. Il n'y a aucun conflit de classe. Il n'y a plus de classe sociale entre prolétariat et bourgeoisie. Les bourgeois ne font pas partie de l'oligarchie en réalité, les très gros bourgeois. Qui est le peuple ? Est-ce que c'est le peuple qui a voté aux élections ? Est-ce que c'est le peuple qui manifeste dans les rues ? Qui est le peuple et qui représente le peuple ? Chacun prétend représenter le peuple, être l'expression du peuple.
Il faut casser le mythe du peuple, alors, selon vous ?
En tout cas, il faut aborder ce terme avec beaucoup de précaution. Puisqu'il est, il a une multiplicité de sens, chacun se réclame du peuple. Il y a effectivement des citoyens, je préfère le terme de citoyen, de nation, à celui de peuple, qui est lourdement chargé de visions fantasmatiques. Le peuple est pur, le peuple c'est les petits gars.
La majorité silencieuse, on peut lui faire dire ce qu'on veut.
On peut lui faire dire ce
D'autant qu'elle est silencieuse, c'est pratique.
Le peuple est silencieux, mais surtout, il est supposé être composé de petits Français, si on parle de la France, de petits Français innocents. On retrouve vraiment toujours cette opposition entre ceux qui sont totalement innocents. Prenez même François Ruffin, c'est le petit gars, le ch'ti gars. Prenez Poujade, c'est le petit toujours. Prenez Pinet, qu'est-ce que c'est que Pinet ? Pinet, c'était effectivement le petit.
Antoine Pinet.
Le petit chapeau, le petit corps, le petit...
Petit chose.
Oui, celui qui accumule un tout petit capital. Et au fond, la légitimité du peuple serait dans cette espèce de manière d'échapper à la perversité. Et là, les pervers, ce sont les riches, ce sont les nobles, ce sont ceux qui sont externes au peuple. Et bien souvent, malheureusement, ce sont les juifs, puisqu'ils sont par définition externes au peuple.
Pierre Birnbaum, je voudrais vous faire écouter un texte. Quand Victor Hugo parle du peuple, est-ce qu'il est populiste ? On l'écoute, c'est Elie Semoun qui lit ce texte tiré de L'Homme qui rit en 1869. Et c'est tiré de l'émission « Les chemins de la philosophie » qui est passée sur France Culture en 2018.
Le peuple est un silence. Je serai l'immense avocat de ce silence. Je parlerai pour les muets. Je parlerai des petits aux grands et des faibles aux puissants. Je serai le lord des pauvres. Je parlerai pour tous les taciturnes désespérés. Je traduirai les bégaiements. Je traduirai les grondements, les hurlements, les murmures, la rumeur des foules, les plaintes mal prononcées, les voix inintelligibles et tous ces cris de bêtes qu'à force d'ignorance et de souffrance ont fait pousser aux hommes. Le bruit des hommes est inarticulé, comme le bruit du vent, ils crient. Mais on ne les comprend pas. Moi, je serai la dénonciation, je serai le verbe du peuple. Grâce à moi, on comprendra. Je serai la bouche sanglante dont le bâillon est arraché. Je dirai tout. Ce sera grand.
Cette semaine, nous sommes en quête de populisme et nous sommes toujours avec Pierre Birnbaum. Qu'est-ce que le peuple ? Qu'est-ce que l'élite ? Pierre Birnbaum, est-ce que Victor Hugo est populiste ?
C'est un texte admirable et bouleversant. Et on est troublé. On a envie d'adhérer, on a envie de dire oui, il a raison sur tout. Essayons quand même de résister un tout petit peu. D'abord, l'époque n'est plus la même. Le peuple n'est pas silencieux, le peuple peut parler, les citoyens peuvent parler, ils peuvent s'exprimer, il y a des partis légitimes, il y a des scrutins, il y a des formes d'organisation, le peuple, les citoyens, je remplace toujours peuple par citoyen, les citoyens dans leur grande diversité sociale, territoriale, géographique, religieuse, les citoyens, dans leur grande diversité, peuvent prendre la parole et s'exprimer. Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas apathiques, ils ne sont pas totalement dominés comme de la Boétie à Victor Hugo, on peut l'imaginer. Ils n'ont pas besoin d'un tel représentant, d'un tel porte-parole. Bien sûr, ce texte est bouleversant, bien sûr, parce qu'il montre à quel point le peuple, pour parler comme Victor Hugo, on est dans Gervaise, enfin, on est dans une sorte de misérabilisme. Quand même, on n'en est pas là. Prenez.
Mais on pourrait dire, Pierre Mainbaume, on pourrait dire que Victor Hugo là parle du peuple, mais il veut se faire le porte-voix du peuple. Il ne veut pas prendre le pouvoir, donc il veut être le médiateur. Et on peut dire que la médiation, c'est contre le populisme. Justement, il veut transformer une colère en quelque chose d'intelligible, peut-être de négociable. Donc finalement, on pourrait dire que c'est du populisme, parce qu'on parle du peuple comme s'il avait une voix unique, une chose unique à dire. Et en même temps, c'est le contraire du populisme, puisque c'est la prétention d'être le médiateur.
Mais de nos jours, les médiateurs existent, ils sont légitimes, ils sont légaux. Il y a des syndicats, il y a des partis politiques, il y a des formes d'organisation, il y a les groupes de pression.
Oui, mais pourtant, il y a un populisme renaissant.
Alors, et il y a un populisme, disons, qui s'oppose à ces formes intermédiaires, qui les tient pour nuls et non avenus.
Ou qui les considère comme inefficaces ou trompeuses.
Ah oui, bah, c'est à eux de le dire et c'est à eux de l'avancer. Et essayons de résister à cela. Essayons de faire renaître la légitimité. La France est l'un des pays du monde où le taux de membres d'appartenance à des partis politiques est le plus faible du monde occidental. Et le plus faible du monde occidental, l'adhésion aux syndicats. 8 ou 10% de Français sont syndiqués.
Et alors, vous êtes spécialiste aussi du nationalisme. En tout cas, vous venez d'écrire La tentation nationaliste chez Textuel en 2022. C'est un recueil de conversations avec Régis Meyran. Le nationalisme est souvent utilisé par les populistes de droite, mais aussi, sous une forme plus économique, par les populistes de gauche.
Alors, là encore, il faut être très précis. Que des formes d'engagement nationaliste puissent avoir une dimension populiste, certes, mais en tant que tel, le populisme n'est pas nationaliste. Le populisme est une forme de révolte des petits contre ceux qui sont supposés les opprimer, de l'extérieur à leur corps social. Le nationalisme, on en distingue deux grandes formes, un nationalisme de type ethnique qui n'a pas besoin de la dimension irrationnelle qu'est le populisme pour se mobiliser. Le nationalisme ethnique, c'est une mobilisation basée sur le sang, la race, la religion. En France, c'est Barrès. Qu'il y ait dans Barrès du populisme aussi, bien sûr, mais l'essentiel de cette forme d'action est de la revendication de construire un peuple, une nation, sur une race, sur une religion, sur un sang. En tant que tel, il y a une dimension populiste qui s'ajoint, et en effet, il va y avoir De Roulède, il va y avoir toute la forme populiste à travers l'affaire Dreyfus, dont Barrès va être l'un des grands porte-parole, la mobilisation collective dans les rues de Paris ou dans les rues de France. Mais le nationalisme ethnique tel qu'il est défini par Barrès ou en Allemagne, Herder et tout ça, en tant que tel, ne charrie pas le populisme. Il revendique une appartenance identitaire, ethnique, raciale ou sanguine. Le nationalisme civique de l'autre côté, normalement...
Donc le nationalisme républicain,
le nationalisme républicain
qui n'a rien à voir avec la race, l'origine,
qui est défini par
religion.
Renan, défini par Renan, si vous voulez, au XIXe siècle, c'est-à-dire il montre comment l'engagement dans le nationalisme repose sur le référendum de tous les jours, c'est-à-dire la participation délibérée de chacun des citoyens à la construction d'une nation.
Mais ce nationalisme républicain ne vaccine pas contre le populisme.
Alors là, vous avez raison. Normalement, oui, il vaccine contre le populisme. Normalement, tel qu'il est défini, c'est une forme de rejet de toutes les émotions et de toutes les mythologies et de toutes les constructions complotistes, puisqu'il repose sur la raison des citoyens. Normalement, il est hostile à ce que vous êtes en train de dire. Mais, si l'on prend certaines périodes, et il y avait un très beau livre comme Le soldat Chauvin, par exemple, au moment de Napoléon, un très beau livre d'un collègue Gérard de Puymienne, il y a bien longtemps, il montrait comment, à travers en tout cas ce nationalisme civique, il y avait néanmoins une forme de radicalité, d'engagement émotif qui se surajoutait à la vision du civique. Les choses sont incertaines, elles se recoupent. Néanmoins, il faut les distinguer. Il faut distinguer nationalisme et populisme, les populismes peuvent ne pas être nationalistes, tout simplement, et les nationalismes peuvent être populistes ou ne pas l'être.
Alors, nous avons fini par trouver un homme sûr de sa définition du populisme, Gérald Brunner, sociologue, professeur à l'Université Paris-Cité, membre de l'Académie des technologies et auteur de « Déchéance de rationalité » chez Grasset et de « Apocalypse cognitive » au PUF.
Il existe des échelles de mesure du populisme grâce auxquelles on fait des mesures statistiques de présence de ces items. Et ces items, ils ont été identifiés au nombre de trois, tout simplement. Premièrement, c'est l'idée d'un peuple homogène, ce qu'on appelle une hypostase du peuple, pardon. Deuxièmement, c'est la volonté qu'il exerce son droit sans médiation, directement. Et le troisième point, qui est essentiel, les trois sont nécessaires pour qu'on puisse parler de populisme, c'est par symétrie la malfaisance consubstantielle des élites. Quand vous avez ces trois items dans une narration politique, vous pouvez parler donc de populisme. Mais là où les collègues ont tout à fait raison, c'est que c'est une matrice narrative, c'est pas un programme très strict. C'est pour cette raison qu'à cette matrice peuvent puiser des propositions qui relèvent de la droite, généralement de l'extrême droite, ou aussi de l'extrême gauche. On en trouve différentes nuances en quelque sorte. Et on voit bien que ces trois éléments sont prédictifs d'un certain nombre d'attitudes politiques. Donc c'est pas du tout un concept abstrait, c'est très empirique en réalité, et c'est très fonctionnel, c'est pour ça que la science politique internationale utilise cette échelle de mesure.
Gérald Brunner, d'où elle vient et qui a fabriqué cette échelle de mesure ?
Alors, cette échelle de mesure, à ma connaissance, elle existe depuis 2014. Elle a été publiée dans une revue de sciences politiques et elle vient de trois chercheurs, Ackermann, Mud et Zaslov, qui, sur la base d'un certain nombre d'observations et de tests statistiques, ont montré la cohérence de cette mesure.
Et donc, on peut trouver du populisme un peu partout, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. On peut en trouver aussi une certaine dose dans tous les discours politiques, la façon de faire de la politique ?
Oui, alors ces items peuvent se retrouver séparément. Alors encore une fois, on parle de populisme quand ces trois items se retrouvent. Parce que d'une certaine façon, la désintermédiation, le droit du peuple de parler sans médiation, on pourrait presque le retrouver dans le discours de Macron en 2017, quand il essaye de mettre à bas en quelque sorte tous les corps intermédiaires. Il l'a regretté d'ailleurs par la suite. Mais on ne peut pas parler de populisme dans la mesure où il n'y a pas les trois items en même temps. Donc voilà, ces trois items sont nécessaires et suffisants pour qu'on puisse parler de populisme.
Par exemple, quand le général de Gaulle en 1962 fait adopter par le peuple une mesure que l'ensemble de la classe politique, syndicale, les juristes, la plupart des journalistes estiment dangereuse, l'élection du président au suffrage universel. Est-ce qu'il s'agit là d'un moment populiste et peut-être à l'usage d'un moment populiste qui a été nécessaire ?
Je ne dirais pas qu'il s'agit encore une fois d'un moment populiste puisqu'il n'y a qu'un seul des items qui se manifeste ici. C'est évidemment une des expressions de la démocratie, par exemple le référendum. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut que les trois items se retrouvent en même temps et on les retrouve facilement. Ce n'est pas comme si c'était un objet rare. Il suffit d'observer le monde contemporain, que ce soit du Brésil, en Italie, aux États-Unis, pour en trouver, ou même en France bien sûr, des expressions tout à fait solides.
On retrouvera Gérald Brunner dans les 3 et 4e épisodes d'Enquête de Populisme avec la question passionnante du populisme numérique. La semaine prochaine, nous allons en Italie et en Amérique du Sud. Le populisme en action au pouvoir, le populisme presque institutionnel. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.